Je vais vous dire un truc qui ne va pas vous faire plaisir. Les investisseurs américains n'ont jamais, jamais dans l'histoire utilisé autant d'argent emprunté pour acheter des actions qu'en ce moment. Pas en 2000, pas en 2007, pas pendant le Covid, jamais. 1304 milliards de dollars de levier. C'est le plus haut record absolu, le niveau jamais vu. Et pendant que cette montagne de dettes tient sur un fil, qu'est-ce qui se passe? Le détroit d'Ormuz est fermé, le 30 ans américain frôle les niveaux Lehman Brothers, Trump tweet que the clock is ticking à l'Iran, et tout le monde attend qu'un type en veste en cuir, mercredi soir, sorte un lapin de son chapeau pour que le marché continue de monter. C'est lundi et croyez-moi, vous allez regretter votre dimanche. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 18 mai 2026.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un marché qui a un petit peu perdu la tête, d'un président qui négocie comme on joue au poker complètement bourré, d'obligations qui sentent le brûlé et d'un détail mineur, vraiment mineur, qu'on appelle la plus grosse accumulation de leviers de l'histoire moderne. Donc, on est lundi matin et j'ai déjà ce vague pressentiment que le week-end a encore servi à empirer un tout petit peu plus les choses. Pendant que vous dormiez paisiblement, en rêvant d'un S&P 500 à 8000 le 1er juillet, au minimum, parce qu'on a tous fait ce rêve à un moment ou à un autre, il faut le dire, le monde a continué de tourner. Pas très bien, mais il a continué de tourner quand même. Premièrement, Trump est rentré de Pékin, plus ou moins à poil. Tout le monde s'accorde sur le fait que les Chinois l'ont mis dans un sac. Xi a gagné et les livres d'histoire ne vont pas être gentils avec Donald qui, soyons honnêtes, ne devrait pas être trop dérangé puisque de toute façon, il a jamais lu un livre d'histoire. Deuxièmement, l'Iran continue de bloquer le détroit d'Ormuz parce que c'est la dernière carte qui leur reste dans la main et que leurs demandes pour signer la paix sont, comment dire, lunaires. Mais on va y revenir. Et troisièmement, parce que nous étions dimanche et que Donald, fidèle à lui-même, a dû sortir son poste du dimanche soir. Vous savez, le poste qui réveille un lundi matin, il a dit à l'Iran que « the clock is ticking », l'horloge tourne. Du coup, on démarre la semaine en fanfare. Les futurs dans le rouge, le Brent qui casse les 111 dollars en montant, et le marché obligataire qui fait, comment dire, un tout petit peu trop parler de lui ces derniers temps. Et quand le marché obligataire fait parler de lui, en général, c'est jamais une bonne nouvelle. Alors, asseyez-vous parce que le récit du marché est devenu d'une simplicité presque insultante. En gros, aujourd'hui, le marché, ça donne ça. L'Iran ferme Hormuz. Le pétrole flambe, plus 87% depuis le 15 décembre 2025. Oui, 87%. L'inflation américaine, donc, repasse les 3,8%, le plus haut depuis mai 2023. On parle déjà de 4% le mois prochain. Les obligations se font massacrer. Le 30 ans américain est à 5,15 et le 10 ans à 4,63. La Fed va être obligée de pivoter, ça c'est clair et net, sauf que cette fois, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire à la hausse. Et les actions, elles, elles se demandent timidement, du bout des lèvres, est-ce qu'on devrait peut-être pas commencer à regarder un petit peu plus la macro et un petit peu moins l'IA? Bah, figurez-vous que jusqu'à jeudi dernier, la réponse était non. Par contre, vendredi, ça a commencé à se compliquer un tout petit peu. On en a parlé dans le Swiss Bliss ce week-end. Les indices ont fini la semaine en rouge sang, mais, accrochez-vous, le S&P a quand même bouclé sa 7e semaine de hausse consécutive. Par les poils, d'accord, mais quand même, ça compte. Et ça, eh ben, on l'avait plus vu depuis 2023. Un peu comme le 30 ans à 5,15 d'ailleurs, comme par hasard. En fait, maintenant, si vous voulez résumer le marché en une phrase, il faudrait dire « tout va mal », mais comme on a déjà digéré le fait que tout va mal, ça devrait quand même bien se passer. Voilà, c'est un gros résumé, vous pouvez éteindre la vidéo, on se revoit demain matin. Non, je rigole, restez, c'est là que ça devient intéressant, juste là, maintenant. Maintenant, on va rentrer dans le sujet qu'on va dire qui est vraiment moche, celui dont on n'aime pas trop parler, parce que bon, les actions, à la limite, on s'en fout. Ça monte, ça descend, on rachète au creux, on revend au sommet, on perd, on regagne. On appelle ça investir dans les livres, et on appelle ça autre chose dans la vraie vie. Mais le truc qui empêche vraiment les vieux comme moi de dormir, c'est ce qui se passe silencieusement sur le marché de la dette. La dette, les obligations. Le 30 ans américain est donc à 5,15, je vous l'ai dit 10 fois depuis que j'ai commencé cette vidéo, niveau jamais vu depuis 2007, mais on avait fait un bref passage en 2023, mais on va pas trop le citer. Pour ceux qui auraient oublié, 2007, c'était l'année juste avant. Juste avant la fin, juste avant que tout explose, juste avant que Lehman disparaisse. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et puis le 10 ans est à 4,63. C'est le plus haut depuis février 2025. L'adjudication du 30 ans la semaine dernière s'est conclue à 5%, première fois depuis 2007, avec une demande qui était, on va dire, carrément tiède, voire très tiède. La traduction pour les non-initiés, c'est que les acheteurs veulent bien souscrire à de la dette américaine à 5%, mais c'est pas exactement la fête du slip côté enthousiasme. Hein. En gros, plus personne n'a vraiment envie de financer le déficit abyssal des États-Unis à ce tarif-là, et même à un tarif un peu meilleur où on n'est même pas sûr. Bientôt quand même 40 000 milliards de dettes, hein, faut pas oublier. Mais le truc à la fin, c'est que le problème, c'est pas que américain, c'est partout. En Angleterre, le 30 ans est à 5,85 et le 10 ans à 5,18. Il a explosé la semaine dernière. Bon, faut nuancer, hein. C'est aussi parce que Keir Starmer est sur un siège éjectable et que le marché flippe de voir le pays le plus endetté d'Europe virer encore plus à gauche. Et on sait tous comment ça se finit en général quand la gauche veut gérer les finances. Le Bund allemand est à 3,18, le plus haut depuis 2011, et puis l'OAT française est à 3,80. Et le Japon ? Le Japon ? Le Japon, il démarre la semaine avec un 10 ans qui frise les 2,80. La Banque du Japon a totalement perdu le contrôle de la courbe des taux, mais tout le monde s'en fout. Et ça, c'est précisément le truc qui devrait nous inquiéter le plus, qui me stresse le plus, parce que c'est exactement quand tout le monde s'en fout qu'il finit par se passer quelque chose. Il y avait Yardeni qui hurlait hier dans le désert « La Fed doit abandonner son biais d'assouplissement, sinon elle perd le contrôle ». On ne parle plus de baisse des taux, on parle maintenant de hausse des taux. La question n'est plus « si », la question c'est « quand ». Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce sera probablement pas en 2026, mais par contre, 2027, ça va être super chaud. Surtout si Hormuz reste fermé. Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, n'a même pas encore trouvé la machine à café, qu'il va déjà devoir aller voir Trump pour lui expliquer que, voilà, baisser massivement les taux, ça va pas être possible. Mais je donnerais par contre très cher pour voir la tronche de Trump quand Warsh va lui dire qu'en fait, ce serait peut-être bien de les monter, les taux. Bon, en gros, on a une économie avec inflation écrit en lettres néon clignotantes sur son front et tout le monde refuse de la regarder dans les yeux. La seule chose qui pourrait soulager la douleur rapidement, et encore, c'est même pas sûr, c'est la réouverture du détroit d'Hormuz. Sauf que, je sais pas si vous avez vu les conditions de paix proposées par les Américains à l'Iran. Pas d'indemnité de guerre, transfert de 400 kg d'uranium hautement enrichi vers les États-Unis. Une seule installation nucléaire active autorisée en Iran, aucun déblocage des actifs gelés, fin complète de la guerre sur tous les fronts. Je crois que c'est le seul truc où ils sont à peu près d'accord, c'est la fin complète de la guerre sur tous les fronts. C'est le genre de proposition que tu présentes quand tu veux être absolument certain que l'autre y signera pas. Personne peut dire oui à ça. Et c'est précisément l'idée. Ça permet à Trump d'écrire mardi sur Truth Social que l'Iran a refusé une offre généreuse avant de donner l'ordre de bombarder de nouveau. C'est de la chorégraphie militaire, du théâtre géopolitique, de la diplomatie spectacle. Et puis, les Iraniens, fidèles à eux-mêmes, fidèles à leur sens du fair play, ont repris chaque point de la proposition américaine et ils ont proposé exactement l'inverse. Donc voilà, il reste plus qu'à compter sur Nvidia pour sauver le monde, comme d'habitude. Et puis alors, petit bonus de l'actualité du week-end, dimanche soir, un drone suspecté d'être iranien, ou en tout cas pro-iranien, on sait jamais que ces gens-là, a tapé un générateur électrique à côté d'une centrale nucléaire aux Émirats. La centrale de Baraka, ça s'invente pas, hein. Pas de fuite radioactive pour l'instant, pas cette fois, mais c'est la troisième fois en 6 mois qu'on voit des drones approcher les centrales nucléaires de la région. Et tout le monde fait comme si c'était parfaitement normal. Ça l'est pas. Et puis la touche d'humour du lundi, c'est des hackers iraniens présumés qui ont compromis les systèmes de monitoring des jauges de carburant dans plusieurs stations-service américaines. Ah, ils ont rien volé, ils ont rien cassé, ils ont rien détruit, ils ont juste modifié l'affichage des jauges. Vous imaginez? $17 le gallon pour montrer qu'ils peuvent le faire. C'est de la guerre psychologique à coût zéro. Le WTI ce matin est à 103,29, le Brent est à 111,29, le IA prévient d'ailleurs que les stocks mondiaux vont passer sous les 7,6 milliards de barils d'ici fin mai. Fin mai, c'est en 10 jours, hein. Plus bas niveau de l'histoire moderne, le gallon américain est à 4,51 et Walmart a prévenu au-dessus de 4,50, ça commence à se sentir dans les habitudes de consommation de leurs clients. Et Walmart publie jeudi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'aimerais pas être le mec qui va devoir écrire le chapitre Guidance dans le discours du CEO de Walmart. Mercredi, on aura Nvidia qui publiera ses chiffres. C'est le seul nom qui compte vraiment cette semaine. Le seul. Le reste, c'est du bruit. Nvidia et les minutes du dernier FOMC meeting qui seront publiées presque en même temps. Mais de toute façon, les minutes, on s'en fout comme d'habitude. Nvidia, c'est le plus gros contributeur à la croissance des bénéfices du S&P 500. Toute la baraque IA repose sur ce trimestre. Encore une fois, comme celui d'avant encore. C'est devenu une espèce de tradition. Hein. Tous les trois mois, le monde s'arrête, retient son souffle et attend que Jensen Huang sorte de sa cave avec sa veste en cuir et nous retourne la tête. Si Jensen sort un truc moyen, juste moyen, hein, même pas mauvais, le narratif IA va en prendre plein la gueule. Et soudainement, tout le monde voudra avoir de la Nestlé dans son portefeuille, du chocolat, du Nescafé, des trucs qu'on consomme même quand le monde s'effondre. Mais si l'homme à la veste en cuir nous fait son one-man show habituel et sort un truc explosif comme d'habitude, eh ben on rachètera tout, le S&P 500 montera de 3% mercredi soir, et on oubliera qu'Hormuz est fermé pendant au moins 36 heures. Ce qui, en horloge marché actuel, équivaut plus ou moins à 5 vies. Vendredi, on a eu une petite répétition générale. Hein. Quand le secteur IA prend un coup, la prise de bénéfices est brutale, hein, on l'a vu. Elle est brutale, coordonnée, et comme on dit dans le métier, probablement saine. Oui, parce que c'est toujours sain les prises de bénéfices, hein, on est bien d'accord, ça fait hyper pro de dire ça. Ça veut juste dire qu'on a au moins, quelque part, à un moment donné, gagné du fric. Et puis alors, il y avait Berkshire. Berkshire a fait ses premières annonces sur le portefeuille depuis que Warren Buffett est parti. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Greg Abel, le successeur de Warren, a fait le ménage. Et que c'est brutal, là aussi. Et presque vexant pour les positions qui se font virer. Visa, Mastercard, United Health, Domino's Pizza, Amazon, Aon, Pulcorp, Eiko, Charter, Diageo, Atlanta Braves, tous virés. Constellation Brands coupé de 95%, Chevron amputé de 35%, soit 8 milliards de dollars en moins, c'est la plus grosse réduction du trimestre. Et à la place, on fait quoi? On triple Alphabet, on ajoute Delta Airlines, première compagnie aérienne à rejoindre Berkshire depuis le Covid, ce qui en soi est un événement. On achète Macy's et on triple le New York Times. Le passage de témoin est consommé et ça ressemble à un licenciement collectif de portefeuille. Cela dit, soyons honnêtes, Alphabet a pris 38% depuis la fin du Q1, donc pour l'instant, personne n'a rien à dire sur les décisions de Greg Abel. Et puis alors maintenant, le morceau de bravoure de la journée. Parlons du levier. Oui, ce truc magique qui permet aux Américains de jouer en bourse beaucoup, beaucoup plus que ce qu'ils possèdent réellement. Imaginez, vous avez 10 balles, vous arrivez à la table de blackjack, la banque vous prête 100 balles supplémentaires pour vous amuser. C'est que du bonheur! Enfin, c'est que du bonheur tant que ça monte. La dette sur marge aux États-Unis vient de toucher un nouveau record absolu, 1304 milliards de dollars. 83 milliards de plus rien que sur le mois d'avril et plus 453 milliards sur les 12 derniers mois, soit 53% de progression. La marge in-depth représente aujourd'hui 5,2% du PIB américain. 3 points de pourcentage au-dessus du niveau de 2008 et bien, bien au-dessus du pic de la bulle Internet de l'an 2000. Les investisseurs américains n'ont jamais utilisé autant de leviers pour acheter des actions, pas en 2000, pas en 2007, pas en 2021. Jamais. Et alors, surtout, à quel moment précis ce record est-il atteint? Le 10 ans qui file vers les 5%, l'inflation à 3,8%, Hormuz fermé, la Fed qui va probablement devoir remonter les taux, Trump qui menace de bombarder l'Iran entre la poire et le fromage, le pétrole à 111 dollars, le carburant à 4,50. Mais bon, heureusement, il y a l'IA. Ce genre de situation où les gens empruntent du pognon pour acheter des actions, c'est précisément le facteur technique qui transforme une correction normale en effondrement brutal. Si le S&P 500 perd 10%, ça déclenche les margin calls, qui déclenchent des ventes forcées, qui déclenchent d'autres margin calls, qui déclenchent d'autres ventes forcées, qui eux-mêmes déclenchent d'autres margin calls, qui d'ailleurs déclenchent d'autres ventes forcées, qui déclenchent d'autres margin... Enfin bref... Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est le serpent qui se mord la queue et c'est l'effet boule de neige. C'est comme une rangée de dominos. Sauf que les dominos, aujourd'hui, ils pèsent 1304 milliards de dollars. Alors, je vous fais pas un dessin sur ce qui va se passer si jamais ça commence vraiment à baisser. Et pendant ce temps-là, l'or passe brièvement sous les 4500 ce matin, en baisse de 15% depuis le début de la guerre, ce qui techniquement est totalement absurde, mais Goldman Sachs maintient quand même son objectif à 5400 pour la fin de l'année, en argumentant que les banques centrales achètent à coût de 60 tonnes par mois. D'ailleurs, ils ont probablement raison à long terme, probablement, et à long terme. Comme disait Keynes, à long terme, de toute façon, on est tous morts. Mais bon, c'est une autre discussion. L'Asie ce matin est dans le rouge, à peu près partout. Les chiffres économiques chinois sont, comme on dit dans le jargon, merdiques. Et même si Xi a techniquement battu l'homme orange à Pékin, ça ne suffit pas à relancer l'économie. Et Samsung négocie pour éviter une grève. Ça a l'air de bien se passer, justement. Ça fera au moins une négociation qui fonctionne aujourd'hui. Donc si on fait le bilan de ce lundi matin, Trump bombarde Truth Social, l'Iran bombarde un peu des centrales nucléaires, les obligations se font bombarder, les semi-conducteurs se font bombarder, l'or se fait bombarder, le Bitcoin se fait bombarder, et le S&P 500 se prépare gentiment à se faire bombarder à son tour, avec des futurs indiqués en baisse de 0,65% ce matin. À moins, bien sûr, que Nvidia, mercredi, sorte le trimestre de son histoire, un trimestre stratosphérique dont ils ont le secret, qui sortirait directement du chapeau de magicien de Jensen Huang. Et pendant ce temps-là, les investisseurs américains sont leveragés à la hauteur d'un record absolu de l'histoire moderne, et la moindre étincelle a le potentiel de tout faire péter. Mais bon, d'ici là, on va probablement tout racheter 3 fois, revendre 2 fois et finir la semaine plus haut qu'à l'ouverture parce que c'est très précisément ce qu'on fait depuis 7 semaines consécutives. Demain, Trump rencontrera son équipe de sécurité nationale dans la Situation Room. Il en ressortira soit avec une décision de bombarder l'Iran, soit avec la promesse qu'il va y réfléchir très 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 fort. Mercredi, minute de la Fed et Nvidia en aftermarket. D'ailleurs, la vidéo sera publiée directement après les résultats de Nvidia dans la nuit, entre 22h et minuit. Jeudi, il y aura les chiffres de Walmart et vendredi, ce sera la veille du week-end. Donc voilà, excellent début de semaine à tous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de partager et de commenter. Et moi, je vous dis bien sûr à demain. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.